Scénario Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Ce 29 novembre marque la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, décrétée en 1977 par les Nations Unies. À cette occasion, l'UNESCO à Paris propose une exposition de photos de Jérusalem et de la Palestine, prises pour l'essentiel à la fin du XVIIIe siècle et que commentera l'historien et diplomate palestinien Elias Sambar. Pendant tout le week-end, nous parlons de la francophonie avec le sommet de Dakar au Sénégal. Nous l'illustrerons avec l'expérience unique et exemplaire de l'université Paris-Sorbonne à Abu Dhabi. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
L'an dernier, le groupe de rock palestinien Khalas a effectué une tournée européenne avec un groupe israélien de rock metal, partageant les mêmes salles, les mêmes bus, les mêmes instruments. Partisan de la coexistence pacifique, Khalas n'en est pas moins un groupe de rock classique. Il le montre avec ce titre « Amona », tiré de son deuxième album « Arabic Rock Orchestra ».
على كيفك إن شاء الله ما رديتي علي يا أمونا كنت أصلي ما جربتوش لو الحب حيمشي وراي أشوف ولا كلمهوش علمتيني الحب إزاي وأنا كنت أصلي ما جربتوش لو الحب حيمشي وراي حشوف ولا كلمهوش اتمسكنتي بقينا أحباب اتمكنتي كيفك
على كيفك
إن شاء الله ما رديتي علي يا أمونا.
À l'occasion de la célébration de la 37e journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, ce samedi, l'UNESCO nous rappelle que Jérusalem et la Palestine ne sont pas que des lieux de violence et de conflit. L'organisation propose à Paris une exposition de photos tirées du fonds photographique de l'école biblique et archéologique français de Jérusalem, un ensemble qui a déjà donné lieu à la publication d'un ouvrage riche et remarquable que l'historien et représentant de la Palestine auprès de l'UNESCO, Elias Sambar, était venu commenter à ce même micro voici quelques mois.
C'est une école qui dispose d'un fonds d'archives exceptionnel puisqu'il y a plus de 15 000 éléments dans leur photothèque. Ils ont également, depuis quelques années, eu recours grâce à leurs très bonnes relations, et vous savez qu'il y a beaucoup de congrégations religieuses dans la ville sainte, à d'autres fonds qui leur ont été prêtés pour également qu'ils les cataloguent, qu'ils les scannent. Et donc, il y a là un fonds d'archives extrêmement intéressant et surtout dans des quantités qu'on a rarement l'habitude de voir dans les bibliothèques et dans les fonds. Cela vient du fait que ce sont des pères dominicains donc qui sont tout à la fois des archéologues, des chercheurs, des savants dans tous les sens du terme, mais également des enseignants. C'est-à-dire c'est une école qui enseigne, qui prospecte, qui fait des fouilles, mais également qui donne des formations d'archéologues assez spécialisé, hein. C'est vraiment l'Orient ancien et notamment les travaux sur tout ce qui touche de près ou de loin à la Bible et aux évangiles, bien entendu. Et donc, le fonds a servi dès le départ, d'une part, comme un inventaire des lieux qu'il visitait, et notamment donc de la Palestine, de la Terre Sainte, mais également un inventaire de tous les objets de fouille nécessaires à leur enseignement. Donc, vous avez une bonne partie de ces photos, de ces images, qui servent à but pédagogique, si vous voulez, pour enseigner un peu l'archéologie. Moi, j'ai eu accès, grâce à de bonnes relations très amicales avec eux, et je leur avais fait cette proposition, à un moment donné, non pas de publier les éléments pédagogiques, mais le reste, c'est-à-dire ce qu'ils avaient vu de ce pays, qu'ils ont commencé à photographier dès leur arrivée, et c'est en vertu de cela que nous avons fait cette sélection et un peu organisé les contributions de cet ouvrage.
Donc 200 photos qui ne sont pas techniques, mais qui sont vraiment démonstratives de ce qu'est Jérusalem.
Qui montrent la ville, qui montrent surtout, il y a des aspects assez uniques. Leur couvent est quasiment à quelques mètres des remparts. Ils ont été témoins, par la force des choses, vu la date de leur installation en Palestine, de la sortie de la ville de ses murs. Et donc de toute la naissance des bâtiments qui entourent la vieille ville. Nous sommes au 19e. Et ils ont systématiquement, par exemple, photographié de leur toit tout ce qui se passait à chaque fois qu'il y avait une sortie des remparts. Et nous avons là un document assez unique de la, ce qu'on a appelé à un moment donné la modernisation de la ville. D'ailleurs, qui a coïncidé avec le moment où la sécurité était suffisamment installé pour que les portes des remparts restent ouvertes de nuit et que donc que des familles, de notables au départ, commencent à sortir de la vieille ville pour s'installer dans ses alentours.
Alors, est-ce que ces photos, est-ce que cet ouvrage montre une ville moderne et avec son environnement moderne ?
Il montre cela, mais il montre, et c'était le but un peu de tout le travail que j'ai coordonné, il montre surtout une ville vivante et pas une relique. Car vous savez, du fait de cette pesanteur des religions, cette ville est souvent saisi uniquement comme un objet de culte, littéralement, presque un objet de culte païen, et comme un lieu de sainteté, mais une sainteté figée dans le temps. Or, c'est une ville vivante. C'est une ville qui est d'une part exceptionnelle, mais qui est également banale, c'est-à-dire qui fonctionne comme n'importe quelle autre ville, avec ses groupes sociaux, ses luttes de pouvoir, ses traditions, ses fêtes. Et c'est cela qu'il m'importait beaucoup de montrer cette normalité, cette banalité exceptionnelle, si vous voulez. Ça semble paradoxal. Ça ne l'est pas.
Alors, cela dit, Elias Samba, est-ce que lorsqu'on le photographie, cette ville, est-ce qu'on a automatiquement un œil politique ?
Pour la plupart des images, nous sommes au 19e. Il n'y a pas encore le conflit israélo-palestinien. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, vu le fait que cette ville est une sorte d'épicentre universel, vu que très très tôt, des missions arrivées de tous les coins de la planète se sont installées là, il y a dans la perception, dans l'œil photographique, une sorte de revendication, non pas d'appropriation, mais de se dire « cette Jérusalem-là est mienne, elle est catholique, ah non, elle est orthodoxe, ah non, elle est anglicane, ah non, elle est luthérienne, et ainsi de suite, sans parler d'islam et sans parler du judaïsme. » Mais au bout du compte, quand vous regardez bien les images, et c'est un peu ce que j'explique dans le petit texte que j'ai écrit, elle ne appartient à personne, elle n'appartient qu'à elle-même, et c'est cela qui est l'universalité. L'universalité n'est pas une appartenance à un quelconque membre de l'univers. Et c'est très très net dans les images, mais vous pouvez très vite, même dans des images abstraites, des vues, donner une nationalité au photographe, c'est-à-dire quelle est la nationalité de l'œil du photographe. Et ces images sont françaises, c'est indéniable.
Alors, est-ce que cet ouvrage, qui parle de Jérusalem au 19e, ça nous renvoie sur aujourd'hui et ça nous donne des leçons sur ce que pourrait être le Jérusalem
d'aujourd'hui ? Ça donne une très bonne leçon, à savoir à quel point cette ville, si elle n'est pas plurielle, elle deviendra un objet d'archéologie et une pièce de musée, c'est-à-dire qu'elle sera morte. C'est le grand danger aujourd'hui, que la ville ne soit plus que un peu le lieu sacré d'une seule des trois religions monothéistes. Ce qui veut dire un intégrisme parmi trois intégrismes possibles, l'intégrisme chrétien, musulman ou juif. Et cela signifierait la mort de la ville. Et c'est pour ça que ce livre est très beau, parce qu'il dit à quel point elle est vivante, et elle dit surtout à quel point elle ne peut être vivante que plurielle.
L'historien et diplomate palestinien Elias Sambar, cette exposition de photographie « Jérusalem et la Palestine » se voit à l'UNESCO à Paris jusqu'à vendredi prochain. Parmi les exemples forts de ce que pourrait être la francophonie à travers le monde, il y a l'expérience menée depuis plus de 8 ans maintenant d'une université Sorbonne à Abu Dhabi. Une expérience sur laquelle revient son directeur, le vice-chancelier Éric Fouache, interrogé à l'occasion du 8e anniversaire de la fondation de l'établissement.
Ce projet a deux caractéristiques qui en font quelque chose d'unique. La première, c'est que ce sont les Émiriens qui ont souhaité nous voir venir et qui ont fait la proposition. Le le défi décidé d'être relevé par la Sorbonne Paris. La seconde originalité, c'est que c'est la première expérience d'exportation dans sa globalité d'une université française. Et enfin, dans ces exportations de branches à l'étranger qui sont fréquentes dans les universités anglo-saxonnes, on a une autre caractéristique qui est très appréciée des Émiriens, c'est qu'on n'a pas créé une branche qui délivre des diplômes Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, mais on délivre à l'identique les diplômes français des universités partenaires, puisque si Paris-Sorbonne est le partenaire numéro un, Paris-Sorbonne, afin de couvrir un champ de disciplines plus large que les disciplines enseignées à Paris-Sorbonne, a signé deux contrats secondaires avec l'université Paris-Descartes et l'université Pierre et Marie Curie. Donc on couvre le champ des lettres, sciences humaines, du droit, de l'économie et une filière de sciences qui s'est ouverte cette année avec les maths et la physique.
Alors justement, vous citez des matières comme le droit ou l'histoire, des choses comme ça, qui sont relativement sensibles, notamment dans les pays du Moyen-Orient, où l'on n'a peut-être pas la même vision du monde qu'à Paris, par exemple. Comment vous en sortez-vous ?
Il n'y a pas de tension de ce côté-là, parce que c'est quand même le seul projet où un pays arabe, fier de son identité, offre un projet de société qui est de maintenir cette identité tout en développant un projet compatible avec les valeurs de l'Occident et qui finance en totalité l'avenue d'une université française où on a la totale liberté pédagogique, on enseigne dans la mixité absolue même pour les activités sportives, on a la liberté totale des programmes et la liberté de parole de nos enseignants en contexte pédagogique. Si les Émiriens nous font venir, c'est dans le cadre d'un plan très précis qui est le plan 2030 de diversification de l'économie pour l'après-pétrole. Ils ont identifié comme secteur économique l'enseignement supérieur et la recherche comme étant un créneau. Ils souhaitent faire d'Abu Dhabi un hub régional. Et on occupe sur ce segment, le segment enseignement francophone, enseignement français et culture européenne. Deuxième demande, dans ce plan de diversification économique, ils ont décidé d'avoir un modèle californien axé sur les hautes technologies, le pétrole, l'aérospatial, la recherche militaire. Et ils savent qu'ils auront toujours besoin, même s'ils ont un plan d'émiratisation des cadres, d'avoir des chercheurs étrangers. Pour être attractif, il faut de la sécurité, des bons salaires, une vie assez confortable. Mais trouver un système d'éducation pour ses enfants, quand on fait venir des cadres qui sont entre 35 et 50 ans, c'est attractif. Et troisième élément, former une génération de jeunes Émiriens, je l'ai dit, et ils ont fait le choix de plutôt les former sur place que de les envoyer 10 ans à l'étranger pour les porter jusqu'à une thèse, avec le risque qu'au retour, ils se soient peut-être un peu éloignés des valeurs de leur société d'origine. Donc on est là pour trois bonnes raisons très cohérentes du point de vue émirien.
Alors voilà, c'est le point de vue émirien, mais alors du point de vue français, quel intérêt pour la Sorbonne d'aller à Abu Dhabi ?
Il s'agit de démontrer si on est capable d'être à l'équilibre financier et d'être un des acteurs économiques de ce qui, à l'échelle mondiale, est un marché. Si on n'est pas capable de le faire, s'il y a une exception française dans le domaine, le risque, c'est que dans 15 ans, l'enseignement d'élite ici soit délivré par des universités anglo-saxonnes qui enseigneront en anglais. Alors, le projet n'a pas été conçu pour ça, mais il est évident, quand on est installé dans un pays, qu'on enseigne en français, on crée une proximité, une empathie. On peut donc parler de soft power, pour prendre un concept à l'américain. On est donc un agent d'influence, en étant conscient qu'on ne doit pas être un outil de la politique française, mais on est clairement un outil d'influence culturelle.
Éric Fouache, vice-chancelier de l'université Paris-Sorbonne, Abu Dhabi. Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, une série de lois fait la une de la presse israélienne.
Oui, notamment la loi sur l'État-nation juif, mais aussi d'autres textes à l'avenant présentés devant la Knesset, le Parlement israélien, qui suscitent de nombreuses réactions dans la presse, et notamment celle du président israélien Rubi Rivlin et de son prédécesseur Shimon Peres, qui tous deux décrit le projet qui transforme les Arabes israéliens en citoyens de seconde zone. Une éditorialiste fait remarquer que dans le monde, on a du mal à comprendre l'essence de cette législation. On pourra inscrire dans les annales du pays qu'au moment où la région tout entière est enflammée, le gouvernement israélien a choisi de lancer une campagne en faveur de cette loi inutile qui ne peut que provoquer un regain de haine. Les élections sont en vue, proclame pour sa part Haaretz, et Netanyahou brandit cette nouvelle loi comme un étendard dans sa course en avant vers une nouvelle coalition plus confortable pour lui. Mariv, lui, se penche sur le nouvel allié du Premier ministre, c'est le retour en force des partis ultra-orthodoxes. Pour le journal, tout est entre les mains désormais du rabbin Yehuda Lev Steinman, un vieillard âgé de 100 ans, le leader spirituel de plusieurs de ces partis, qui décidera si oui ou non les élections seront avancées.
Allez, même à 100 ans, on peut encore avoir bon pied, bon œil. Alexandre, une fois n'est pas coutume, l'économie fait la une des journaux panarabes qui commentent la chute des prix du pétrole.
Oui, et pour le journal Haya, le grand titre, c'est « Le pétrole à moins de 70 dollars ». Alors, pour Al-Quds Al-Arabi, c'est un seuil critique pour la plupart des pays arabes. L'or noir est en effet une ressource essentielle pour les monarchies pétrolières du Golfe et la Libye, mais il est aussi une source extrêmement importante de revenus pour des pays comme l'Irak, l'Algérie, le Soudan, le Yémen et même la Syrie en pleine guerre civile. Alors une baisse qui va aussi affecter des pays qui, comme l'Égypte, reçoivent une aide massive de la part des pays du Golfe. L'année dernière, c'était 20 milliards de dollars et c'est aussi une mauvaise nouvelle pour le mouvement de l'État islamique dont une des principales sources de financement est la vente du pétrole à prix cassé à la Turquie et au régime syrien.
La Syrie, justement, Alexandre, qui est également à la une.
Oui, et le journal Haya croit savoir, selon ses sources à Londres, que les États-Unis et l'Iran se sont entendus sur le principe de ne pas s'en prendre au régime syrien dans le cadre de la campagne actuelle, la campagne aérienne contre l'État islamique qui est menée en Syrie. Les journaux arabes avaient à maintes reprises indiqué que des gardiens iraniens de la révolution prêtaient main forte au régime de Bachar el-Assad, et les journaux publient aussi des déclarations de responsable de l'Organisation mondiale de la santé, selon lesquels la situation sanitaire se détériore en Syrie, que ce soit dans les territoires contrôlés par la rébellion ou par le régime. Une détérioration due, selon l'OMS, à la pénurie en eau potable, aux pannes d'électricité et à la hausse des prix du carburant qui sont dus à la dévaluation de la lire syrienne.
Michel Paul, vos journaux s'intéressent également au plan de paix présenté par le ministre des Affaires étrangères.
Oui, Eric, régulièrement, Avigdor Lieberman publie un nouveau plan pour résoudre le conflit israélo-palestinien et régulièrement ces projets tombent dans les oubliettes. Alors cette fois, le ministre va plus loin qu'à l'accoutumée. Il accepte de renoncer à des parties de Cisjordanie dans le cadre d'échanges de territoires avec les Palestiniens, mais il propose aussi d'inciter les Arabes israéliens à quitter Israël pour la Palestine, moyennant des compensations pécuniaires. Haaretz qualifie cette idée de transfert payé. Lieberman, pour sa part, lui, il est persuadé que son plan peut être acceptable pour tous.
Oui, affaire à suivre. Michel, une question taraude vos journaux. Les services secrets israéliens ont-ils réussi à contrer le programme nucléaire iranien?
Mariv pose la question sans vraiment donner de réponse, mais le journal publie ce week-end un dossier sur la guerre secrète menée par Israël contre le programme nucléaire iranien. Le but est de retarder tout développement de ce programme, car selon le journal, il est clair qu'en fin de compte, les opérations menées par les services secrets ne peuvent pas stopper totalement le programme nucléaire iranien.
Alexandre Bouchanti, les risques croissants d'islamophobie en Europe préoccupent de nombreux journaux arabes.
Oui, et des journaux qui soulignent que le projet de loi britannique de lutte contre le djihadisme, ainsi que les propositions similaires faites dans d'autres pays européens, préoccupent la communauté musulmane dans ces pays. Une communauté qui craint que la lutte contre l'organisation de l'État islamique et contre les extrémistes musulmans qui soutiennent cet État ne finissent pas se traduire par une montée plus généralisée de l'islamophobie, une islamophobie qui était jusqu'à présent limitée au courant d'extrême droite. Et plusieurs journaux rapportent des déclarations aussi du président turc Recep Tayyip Erdogan accusant l'Occident de haine contre les musulmans. Une déclaration qui, pour ces journaux, en fait ne va verser que de l'huile sur le feu, Erdogan étant souvent accusé de soutenir indirectement l'État islamique.
Et pour terminer, Michel Paul, quel est votre photo du jour?
Eh bien, c'est la photo des parents de Lee Zeitouni, la jeune fille israélienne tuée il y a 3 ans par des chauffards français à Tel Aviv qui ont pris la fuite après l'avoir renversée. Le procès des deux hommes a débuté à Paris et les parents de Lee ont confronté pour la première fois les deux chauffards.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à Zacharias Bouyaï qui a réalisé cette émission. Émission que vous pouvez podcaster sur le site www.rfi.fr ou réécouter sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
RFI, la sélection.